Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Voix de Fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, en compagnie de Nicolas.
Janie.
Ouais, ça va mieux avec le micro ouvert. Farouko.
Alors, cette semaine, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit, on va revenir sur le dépôt des demandes du Front commun du secteur public qui, vendredi dernier, avait un rassemblement à Québec. On a aussi des nouvelles d'actualité.
On parle aussi de la maison de l'Aube-Rivière de Québec qui est débordée, puis aussi d'Hydro-Québec qui va couper dans le service à clientèle.
Évidemment, on n'aura pas le choix de revenir sur les résultats des élections municipales de dimanche dernier. Et pour faire une continuité, on va finir avec un portrait de famille qui explique un peu pourquoi les libéraux veulent pas d'enquête publique sur la question...
La construction.
Oui, sur la question de la construction, de la corruption, du financement politique des partis au municipal, etc., etc., etc. Et si on a le temps, on va parler au niveau international de la solidarité avec la Fédération anarchiste Gaucha, l'organisation du Brésil qui s'est fait perquisitionner ses locaux à Porto Alegre. Donc voilà, c'est Voix de Fait sur les ondes de Sequoia 88.3. Au retour, on revient avec un reportage sur le dépôt des demandes du Front commun.
Yeah!
Ah, c'est quoi qu'on passe comme musique?
Shuriken qui vous dit où je vis.
Mais qu'est-ce que je vais leur dire maintenant qu'ils sont là? Bienvenue, ça fait longtemps qu'on vous attend. Franchement, on n'y croyait plus, vaut mieux que vous le sachiez. Je sais pas vraiment à quoi vous pensiez. Une chose est sûre, vous n'avez rien à nous envier. Je parais que chez vous, les jours s'écoulent inexorablement calme. Ici, pas un ne passe sans qu'un gosse trépasse. Les larmes succèdent aux lames. Je parie que vos pères vivent plus longtemps, vos mères sourient plus souvent. Ici, il y a les chanceux et ceux qui suent leur sang, les sans-abri démunis. Je sens que vous ne comprenez pas ce que je dis, tant mieux ici. C'est un peu comme les étoiles la nuit. Les mecs détalent plus vite qu'une blague sur une plainte. Les plaintes volent, les gens s'affolent, le FN. La haine racole, y'a plus d'auréole. Les pourris se gavent, les petits tombent quand les caves bavent. Je parie que chez vous y'a moins de tombes, ici c'est grave. Y'a des pères qui battent leurs gamins, disent qu'ils les aiment. Et certains hommes aiment leurs femmes avec des chrysanthèmes. La passion prend le dessus souvent, trop souvent asservie par un dogme. Les fanatiques se lavent dans des bains de sang impur. Je vous jure, c'est pas la fin de votre quête, ni la bonne planète. Ici les gens différents ça inquiète. Vois où je vis, les gens meurent encore de faim ici. De froid, d'ennui, certains flirtent avec l'oubli. On plie ou on paye le prix. Vois ce qui en rit, la conscience, c'est comme les tâches, ça s'essuie. Vois où je vis, des gens meurent encore de faim ici. De froid, d'ennui, certains flirtent avec l'oubli. On plie ou on paye le prix. Vois ce qui en rit, la conscience, c'est comme les tâches, ça s'essuie. C'est pas commencé chez vous ici, l'argent fait la loi. Les lois sont faites par et pour ceux qui en ont. Les autres affûtent leurs dents, trop de vie abreuvent les sillons. Trop de croix au crayon, baïonnette au canon. L'homme tue l'homme pour des ronds. Si j'étais vous, je ne resterais pas là. Même si on vous accueille aujourd'hui, demain on vous jettera. Croyez-moi, la couleur crée des frayeurs chez ceux qui ignorent la voix du cœur. Mais il y en a trop, il y a sûrement une erreur. Ailleurs je suis sûr que c'est pas comme ça. Quoi, me faites pas croire que là-bas aussi les cons sont rois. On a eu deux guerres, Hitler. Et il y a encore des gens avec le même genre d'idées pas clair pour le pas clair. Alors je prie pour mes pères, vos grands-pères. S'endorment seulement au coin du feu le soir. Ici c'est l'hospice, rien à foutre. L'histoire c'est un tableau noir. Bien sûr j'ai peur des fois, je pense à Tess. Je crains qu'il ne blesse Yanis. Petite Keisha ne cachera pas ses tresses. Je saignerai pour ça les poings serrés. Sans gendre, j'avancerai droit vers l'autre. Prêt pour une dernière étreinte. J'espère que chez vous, c'est pas comme chez moi. Construire sa vie avec la mort en soi, vivre en armure, sentir son sang devenir froid. Je sais, c'est pas gay, mais tout est vrai. Ici, les gens, pas comme les autres, on les hait depuis l'éternité. Voilà où je vis, des gens meurent encore de faim ici. De froid, d'ennui, certains flirtent avec l'oubli. On plie ou on paye le prix. Vois ce qui en rit, la conscience, c'est comme les tâches, ça s'essuie. Vois où je vis, des gens meurent encore de faim ici. De froid, d'ennui, certains flirtent avec l'oubli. On plie ou on paye le prix. Vois ce qui en rit, la conscience, c'est comme les tâches, ça s'essuie. Vois où je vis, des gens meurent encore de faim ici. De froid, d'ennui, certains flirtent avec l'oubli. On plie ou on paye le prix. Vois ce qui en rit, la conscience, c'est comme les tâches, ça s'essuie. Vois où je vis, vois Mars. Vois où je vis.
Maison.
Là, on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
T'écoutes Voix de
Fait, madame.
Fini le temps des décrets, il faut négocier pour vrai.
Alors, vendredi dernier, il y avait à Québec le dépôt des demandes du Front commun du secteur public. La version 2009 du Front commun du secteur public québécois est la plus large depuis 1972. Il y a des syndicats qui représentent 475 000 personnes qui en font partie. Alors, le dépôt des demandes a été l'occasion d'un rassemblement d'à peu près 2000 personnes à Québec, au Pigeonnier. Le dépôt avait été précédé d'une tournée du Front commun qui a pris la forme de plusieurs rassemblements syndicaux aux quatre coins de la province pour expliquer aux gens la stratégie et les demandes qui avaient été retenues par les délégués. On nous dit que la mobilisation a été bonne pour la tournée, mais bon, de visu à la manifestation, en tout cas, si on se fout au rassemblement, on constate qu'il est très, très, très différent selon les secteurs et même les lieux de travail. Moi, j'ai reconnu beaucoup, beaucoup de visages, dont quelques amis de gauche, que je sais qui n'ont pas de responsabilité syndicale, mais surtout beaucoup de permanents et les équipes syndicales de la région. Disons qu'il y avait beaucoup de délégués au pouce carré. C'était une manif très, très calme et gentille sur l'heure du midi, dans le respect du décret qui régit encore l'action syndicale jusqu'au 31 mars. Il faut savoir que tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une perturbation des services publics peut être l'objet de poursuites, d'amendes, de retrait des cotisations syndicales et tout ça. Donc il n'y a eu aucune perturbation des services à l'heure du jour, aucun débrayage. Tout le monde qui était présent, les 2000 personnes qui étaient là, étaient soit en congé, soit sur leur heure de midi. C'était comme vraiment très, très, très encadré à ce niveau-là. J'ai pas vraiment senti de colère ou de combativité. Les gens arrivaient en gang, mangeaient leur lunch, faisaient ce qu'on leur disait, applaudissaient au bon moment, reprenaient les slogans quand c'était le temps. En fait, le seul moment un peu relevé et combatif a eu lieu à la fin de la manifestation, quand la foule a accompagné les négociateurs en chef jusqu'à la porte du Conseil du Trésor sur Grande Allée. Alors, ils partaient du Pigeonnier. Là, ils ont fait une haie d'honneur qui partait du Pigeonnier jusqu'au bureau du Conseil du Trésor à l'édifice administratif, comme qui est de billets avec le Parlement, finalement. Et ben, en masse assez de monde pour faire une aide d'honneur sur tout le long et prendre toute la Grande Allée, là. Et là, voilà, c'est ça. On a eu là un bout un petit peu plus relevé. D'ailleurs, on va en écouter un extrait pour donner une idée de l'ambiance. Donc, après le rassemblement des militants et militantes syndicaux, 2000 personnes, comme je le disais, il y a eu une conférence de presse au Hilton des dirigeants des centrales pour présenter des demandes au public et affronter la presse. C'est vraiment de ça dont on parle. Affronter la presse qui dit « Ça va coûter 3 milliards votre affaire, on a un déficit de 5 milliards et tout et tout et tout. Qu'est-ce qui va se passer? » Il y avait trois porte-paroles, mais honnêtement... Pour être franc, c'est Claudette Carbonneau de la CSN qui menait le bal, puis j'ai décidé de pas me casser le bessic à essayer d'avoir des citations de tout le monde. C'est trop compliqué, puis ben, elle résumait bien la situation. Donc, voici l'essentiel de la présentation de la présidente de la Confédération des syndicats nationaux qui doit, elle seule, représenter au moins le tiers des syndiqués du secteur public québécois.
Aujourd'hui, c'est le jour du grand départ. Vient à peine de se terminer le dépôt des demandes de 475 000 personnes. C'est 15% de la main-d'œuvre québécoise au Conseil du Trésor. Et du côté du Front commun, pour nous, il s'agit véritablement d'une négociation charnière. Alors, on a donc déposé cet après-midi les demandes dites de table centrale. Alors, il y a là-dedans, évidemment, une demande salariale qui en est une d'augmentation à hauteur de 3,75% par année sur une période de 3 ans. Un 2% là-dedans étant revendiqué pour des fins de prévention de l'inflation et le reste à titre de rattrapage salarial. Il y a quelques demandes au niveau de la retraite sans aucune incidence financière. Et à la table centrale, l'autre demande en est une d'adopter une loi sur la conciliation famille-travail. Je pense que c'est un enjeu de modernité et c'est un enjeu particulièrement important dans un milieu où 74% des effectifs sont des femmes. Nous voulons une négociation rapide qui nous sorte de la dynamique instaurée par les décrets.
Alors, quelques faits pour terminer sur ce dossier-là. On parle de 475 000 personnes, comme je le disais, dont le salaire moyen est de 36 000 $. On est loin des gras durs dont on fait les choux gras dans tous les médias. C'est loin d'être juste des employés des ministères, en fait. On parle surtout de tout le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que de l'éducation du primaire au cégep. Le retard salarial moyen du public par rapport au privé est de 7,7% d'après l'Institut de la statistique du Québec. Une source gouvernementale, c'est pas les syndicats qui ont inventé ça. La méthode de comparaison est contestée aujourd'hui parce que dans les médias, parce qu'on compare des emplois dans des organisations de taille comparable. Donc, on compare pas avec monsieur et madame tout le monde qui travaillent dans des PME dans le privé, mais avec des employés syndiqués dans des grandes entreprises. Donc, historiquement, les syndicats, surtout la CSN, en fait, aiment pas la formule de comparaison et sont très critiques et cyniques par rapport à ça, parce qu'ils disent que c'est un peu comparer des pommes et des oranges. Par contre, comme c'est cette formule-là que le gouvernement a utilisée dans les années 80-90 pour les traiter de gras durs puis justifier la ligne dure, gel de salaire, coupure de poste et compagnie, les syndicats seraient fous de pas l'utiliser maintenant que la formule les avantage. T'sais, à un moment donné, si c'était bon pour couper les salaires, pourquoi ce serait pas bon pour les augmenter? Comme je le disais, la mobilisation est très inégale. Vous voyez, je parlais avec des gens dans les cégeps qui, eux, les syndicats de profs, sont passablement retournés, mais il faut dire qu'ils ont eu toute une grosse campagne là, de vote d'allégeance syndicale et tout, fait qu'ils sont ils sont mobilisés, puis bon, il y a des profs à la base qui sont pas militants syndicaux, pas délégués, qui étaient présents. Par contre, je parlais avec des camarades qui sont techniciens pour le gouvernement dans les ministères, entre autres à l'environnement, qui disaient que même c'était difficile de mobiliser les délégués syndicaux, fait que c'est à la base, c'était vraiment compliqué. D'autres camarades qui disaient « Ouais, ben tu sais, on a reçu un autocollant par la poste, c'est même pas quelqu'un qui nous l'a donné, tu sais. » Donc, des choses comme ça, c'est vraiment inégal, mais il y a quelque chose qui est fait par rapport à ça. Je pense pas qu'il faudrait s'attendre à grand-chose en termes de lutte, là, de ces négociations-là, même s'il y a quand même des gens qui essayent de faire quelque chose. En gros, les syndicats ont l'air d'être traumatisés par la dernière négociation et leur décret, puis leur principale préoccupation, c'est de réussir à obtenir des conventions collectives négociées. S'il y a encore un décret, d'ailleurs, selon la présidente de la CSN, ce serait la première fois de l'histoire qu'il y en aurait deux de suite. Puis deux de suite, c'est plutôt démoralisant et démobilisant là, dans l'effectif. Donc, ceci dit, il y a quand même des efforts intéressants pour élargir la mobilisation, puis susciter la participation des membres. On a déjà parlé de la CSN. Ici, on a eu une entrevue avec quelqu'un là, au début de la saison. Donc, il y a quelqu'un qui, un ancien des Média Québec, en fait, du CEMAC, qui est rendu aux communications à CSN, qui a mis sur pied une formation pour permettre aux militants d'alimenter eux-mêmes le site web. Ils ont créé un site web, en fait, pour la mobilisation, pour la négociation. Puis dans la section nouvelles, c'est les militants des syndicats de base qui ont une formation pour mettre en ligne des photos, des vidéos, des coups de gueule, tout ça. Il y a 200 personnes dans les syndicats de base qui ont eu la formation pour le faire. Déjà, on nous dit, il y a eu une semaine d'action. Là. Le 30 octobre, en fait, il y avait des actions dans toutes les régions. Il y a déjà une quarantaine de syndicats locaux qui ont envoyé leurs affaires sur le site. Donc, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires pour essayer de faire participer les gens. Si ça vous intéresse, c'est www.secteurpublic.info. Et là-dessus, il y a la section nouvelles, il y a aussi un blog, on peut mettre des commentaires, on peut se créer un compte d'utilisateur. En fait, un peu comme justement là, dans les sites d'Open Publishing, c'est de la part des syndicats, en fait, un effort assez important de décloisonnement des choses. Ils ont c'est ça, ils ont mis sur pied des blogs, il y a même un groupe Facebook, toi, imagine-toi donc. Ça, c'est la révolution. Sinon, on note aussi une propension à utiliser l'humour. Lors du rassemblement du Front commun à Montréal, le Front commun avait invité les apartistes à venir faire le show. C'est quand même pas rien là, de dire... Ben, et c'est prendre un risque, hein, parce que tu peux pas dire aux humoristes, vous allez dire ça. C'est comme, ils viennent, ils font le show, ils sont à gauche, ils sont de ton bord, mais tu sais pas trop. Mais enfin, bref, ils ont invité à faire un spectacle, ils vont faire des capsules pour et des sketchs pour le Front commun. Il y a aussi des vidéos hilarantes sur le site du syndicat de la fonction publique du Québec. En fait, c'est des espèces de... c'est des cartoons qui ont été faites sur les négociations sur le service public. Et ça trache les libéraux. Et ce qui est très particulier de ces capsules-là, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent venant des fonctionnaires, ça, ils font pas juste comme prendre leur défense. Ils prennent aussi la défense de un peu de monsieur, madame, tout le monde face au service public, tu sais. Plutôt que de dire... tout va bien, madame la marquise, on est beau, on est hot, on fait des beaux services. Ils disent, en fait, les services sont scrap, c'est pas de notre faute, puis en fait, on aimerait ça que ça aille mieux. Et d'ailleurs, je me suis permis de pirater un extrait pour pouvoir vous le mettre l'eau à la bouche et vous le mettre. Si vous voulez voir ces petits films-là, c'est www.sfpq.qc.ca/nego. Alors, on va écouter cet extrait-là, et après ça, on va s'en aller en musique avec ce que Farouko voudra bien nous mettre.
Bonjour, ici la Régie des bâtisses et établissements du Québec. Un instant, s'il vous plaît. Régie des bâtisses et établissements du Québec, René Côté, comment puis-je vous aider?
Bon, il était temps. Il était temps que je parle à quelqu'un. Ça fait 5 minutes que j'attends.
Désolé, monsieur, je suis une espèce en voie de disparition, moi, là.
Ouais, ben moi, c'est parce que mon entrepreneur a mal fait les travaux chez nous, puis là...
Juste un instant, monsieur, là. Mon boss veut absolument que je vous demande d'abord votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, marié, conjoint de fait, divorcé, à côté, infidèle, pervers, et comment avez-vous entendu parler de notre service?
Ben, on peut-tu parler de mon problème avant, puis ensuite, je vous donnerai toutes ces informations-là, parce que... là, ça prince, hein?
Pas de problème, je vais vous ouvrir un dossier un instant, s'il vous plaît. Oui, vous êtes là?
Ben oui, c'est sûr.
Alors, quel est le problème?
L'entrepreneur de ma maison a mal fait les travaux chez nous.
Vous habitez dans une maison résidentielle?
Ben, un bungalow, genre.
Oh, je regrette, monsieur, la régie ne s'occupe pas de ce genre d'établissement.
C'est un duplex ou un triplex?
Ça serait la même chose.
Hey, de quoi vous vous occupez, vous autres?
Monsieur, toujours là?
Ben oui.
Je cite déclaration de service. Ici, on s'occupe seulement des habitations résidentielles de plus de 8 logements et de plus de 2 étages non détenus en copropriété divisée ou indivisée, dont la construction a moins de 5 ans. Visitez notre site web pour plus de détails au www.régie-du-bâtiment/habitation-résidentielle/copropriété.gouv.net-établissement-du-québec.ca.
Ouais, mais c'est mon entrepreneur le problème. Vous en occupez, vous autres, des entrepreneurs?
Ben oui, effectivement, c'est la régie qui remet les permis.
Regardez-vous le travail qu'ils font?
Voulez-vous la version officielle ou la vérité?
La vérité.
Écoutez, si j'étais pas contraint à mon droit de réserve, je vous dirais que on n'inspecte plus vraiment, vraiment. On se fie à des critères comme si l'entrepreneur a été poli et courtois avec nous, s'il nous a dit sans que sa voix tremblote qu'il a fait les corrections que nous lui avions demandées.
Comment ça? Vous checkez rien. Vous retournez pas ses travaux. Vous fiez à ce que le bonhomme vous dit, là, puis c'est comme ça. Là.
Imaginez-vous donc que la nouvelle philosophie de la régie, c'est de dire « on retourne pas voir » et on se fie à la parole de l'entrepreneur. Mon boss dit toujours « C'est un professionnel, après tout, qui oserait pas avoir confiance à un homme qui déclare que 50 % de ses contrats et qui engage souvent des employés pas de carte sur ses chantiers. »
Pas sérieux.
Ben oui, je vous le dis.
Ben, vous craignez pas.
Je vous le jure.
Pis moi, vous vous fiez pas à ma parole?
Réponse officielle ou vérité?
Ben, ça donne quoi de porter plainte? D'abord, la régie fait rien. Pensez-moi votre boss.
Boss, sur la ligne 23, c'est pour vous.
Bonjour, ici la Régie des bâtisses et établissements du Québec. Comment puis-je vous aider?
Ah oui, un instant, s'il vous plaît.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne.
Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne.
ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
De retour à CKIA 88.3, vous écoutez Voix de Fait, avec des membres du collectif Anarchiste la Nuit qui, il y a Jenny qui a son retour d'actualité de la semaine.
C'est ça, ben, pour aller dans le même esprit un peu du sketch humoristique qu'on a dit tantôt, il y a Hydro qui va couper les services à clientèle. Selon le président du syndicat des employés techniques professionnels de bureau, Claude Arsenault, Hydro-Québec va abolir à compter vendredi de cette semaine près de 250 postes sur le service à clientèle pour service de recouvrement. Puis son président, M. Arsenault, il s'est assuré que la qualité de service va se détériorer, que les dossiers en retard vont s'accumuler, puis que les gens vont encore puis attendre plus longtemps au téléphone.
Wouhou! Ben, tu sais, si on les fait patienter assez longtemps au téléphone, en général, ils raccrochent, fait que ça a du bon.
Oui, mais selon la direction, c'est des gens qui avaient été engagés en surplus. Mais bon.
En surplus par rapport à la période de déménagement, puis d'habitude, ben, après ça, après le premier job, il éclaire tout le temps du monde, puis là, on est comme rendu presque en novembre, là, c'est comme...
Oui, c'est un peu incohérent, mais bon.
Ouais, c'est rendu complètement débile mental, de toute façon, ces histoires-là, là, je veux dire, depuis que Bell s'est débarrassé de ses téléphonistes, ça arrête plus, là.
Ah, mais Hydro se défend d'utiliser la sous-traitance, ils disent... Tous nos employés sont salariés Hydro-Québec. T'sais, tous nos services sont offerts par des employés Hydro-Québec. T'es comme, ouais, mais il n'y en a plus de services.
C'est quand même bizarre. T'sais, ils viennent d'acheter une compagnie au Nouveau-Brunswick, puis après ça, il faut qu'ils coupent du monde. En tout cas.
Ensuite?
C'est une note encore pas très très belle. C'est la maison de l'Aube-Rivière qui est présentement débordée. Tu sais, il y a des experts qui disent, à Québec, on n'est pas affecté par la crise, mais l'Aube-Rivière s'est rendu compte que la forte hausse de fréquentation de ces locaux, ça prouve le contraire. Cet organisme-là a constaté une nette augmentation de la demande pour les repas du soir et les nuitées. Depuis mai, nous servons en moyenne 633 repas de plus par mois. En août, nous avons servi 1000 repas de plus par rapport à août 2008, selon Chantal Ducos, la directrice générale de la Maison de l'Aube-Rivière. Puis le troublant encore sur l'aide de Puyo, Lobrivière a dû refuser 160 personnes en quête de lit pour la nuit, dont 69 pour le seul mois de septembre. Puis, ils ont jamais refusé autant de gens pour dormir. Puis ils disent aussi qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent là, que c'est des travailleurs, qui arrivent en voiture, mais qui manquent...
De tout,
hein.
Ouais, mais ça, c'est les effets de la crise du logement.
Mm. Ça, puis on sait que 15 à 20 % de notre clientèle sur le marché du travail sont peut-être des gens qui travaillent au salaire minimum, mais une fois que les coûts du logement et des véhicules sont payés, ben il y en reste moins pour se nourrir.
Oui, ben c'est ça, c'est des dossiers à suivre. Il y a, peut-être qu'effectivement, la crise économique touche moins Québec, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ça va pas bien en région, ils aboutissent où avant d'aboutir à Montréal? Mm. Ils aboutissent d'abord à Québec.
Oui, ces temps-ci, ils aboutissent tous à Québec. Le marché de l'emploi à Québec, il souffre pas localement. Je veux dire, au niveau de la main-d'œuvre locale, il n'y aurait pas de trouble, sauf que là, on se ramasse avec la problématique.
Du Saguenay,
le monde n'est pas compte. Ça fait 6 mois que tu habites en quelque part, puis tu peux pas trouver de job. Ben, tu vas là où ça va bien, puis c'est bien normal.
Oui, ceci dit, on avait déjà un problème de logement qui était très, ouais, très serré. Fait que c'est sûr que ça impacte sur ces affaires-là. Là.
On s'empile un peu plus.
Les autres disent qu'ils peuvent faire rien qu'à la session économique, mais ils sont pas capables encore d'identifier clairement une cause. Ils disent qu'ils vont voir dans les prochains mois si c'est une tendance qui va se maintenir. Puis que...
Ouais. Bon, on a plusieurs indicatifs comme Soleil Moisson Québec aussi qui avait des baisses marquées au niveau des dons, là, puis qui ont donc été obligés de se retourner vers les producteurs directement pour faire augmenter les dons et tout. C'est pas une situation facile, puis tu sais, des organismes comme l'Aubrivière, là, à un moment donné, ils sont rendus dans une situation de crise permanente. Là, ça fait depuis 2002 qu'ils font systématiquement des rajouts de lits, puis qu'ils se rendent compte, tu sais, qu'ils ont refusé du monde. Il y en a plus que le mois précédent, l'année suivante. Tu sais, s'ils s'amusaient, ils pourraient dire, on en a 3000 de plus qu'il y a 5 ans, à la limite. C'est vraiment des affaires, c'est hallucinant. Puis il y a eu un développement majeur des services en itinérance à Québec dans les dernières années, et puis pourtant, ça continue. Ceci dit, il y a peut-être une vague lumière au bout du tunnel, là. Il semblerait qu'aujourd'hui, mercredi, c'était le dépôt de la politique en itinérance du gouvernement du Québec. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il y en est. Probablement que le réseau Solidarité Itinérance du Québec va sortir sur la question incessamment. On en a parlé il y a 2-3 semaines, là, pour la nuit des sans-abri. C'était aujourd'hui, là, le dépôt.
Oui, ils ont déjà donné des entrevues, puis ils parlaient que le principal point positif, c'était que dans un an, il allait relancer la ministre.
Oui, il allait avoir quelque chose pour la relancer. Sinon, ben, il va y avoir des manifestations à Ottawa à la mi-novembre, parce que 25, je pense, parce que ils vont revoir le programme national d'aide à l'itinérance. Mais c'est des affaires qu'il va falloir surveiller.
L'armée est à veille de recruter, là.
Ouais, mais c'est tout le temps ça. Ah
oui, c'est clair.
C'est terminé.
OK. Est-ce qu'on a de la musique?
Oui, on a les Salles Majestés qui nous chantent « A voter » sur les ondes de CKIA 88.3.
Vous doutez bien qu'on va revenir avec les résultats des élections municipales.
Ah oui!
J'irai voter anarchiste, je ne suis pas écologiste. Moi j'irai voter radical, pour flasher le Front National. Et puis pour qui et puis pourquoi? De toute façon, ça ne changera pas. De toute façon, ça ne changera pas. Et...
allez, 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 à voter.
J'irai voter LCR, j'aime bien les révolutionnaires. J'irai voter pour les trotskistes, pour faire chez nous les royalistes. J'irai voter lutte ouvrière, car je suis un contestataire. J'irai voter n'importe quoi, de toute façon je n'y crois pas. Et puis pour qui et puis pourquoi? De toute façon ça ne changera pas.
toute façon, ça ne changera pas. Et...
allez, 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 à voter. Allez, 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 à voter.
À voter,
allez, allez, allez,
à voter,
allez, allez, allez,
à voter,
allez, allez, allez,
à voter.
De retour à CKI 88.3 Québec, toujours à voix de fil, centre collectif anarchiste la nuit. Alors évidemment, on en a parlé tout le long de la campagne électorale, on peut pas s'empêcher de faire quelques premières réactions sur le résultat de l'élection municipale de dimanche dernier. Bon, tout d'abord, il faut dire que on est probablement les seuls gauchistes qui ne s'apitoieront pas sur leur sort et qui vont pas déplorer radicalement le résultat des élections, dans la mesure où c'est pas une catastrophe nationale, c'est pas non plus un changement radical. Il y a des éléments de changement, il y a des choses différentes qui vont se passer, mais bon, en quelque part, c'est une question essentiellement de style qui se joue. Ceci dit, il y a quand même des choses qui se passent. Bon, la première affaire qui a attiré notre attention et qu'on a retenue, qui a quand même été soulignée, mais bizarrement, c'est la progression de l'abstention. Indépendamment des excuses conjoncturelles, comme le résultat connu d'avance à la mairie, l'abstention continue de progresser à Québec. Alors, on était à 48% d'abstention lors de la dernière élection générale municipale. L'abstention dépasse maintenant les 50% selon les données préliminaires de la ville, on était à 50,1% d'abstention. Je pense que maintenant on peut parler de 52% d'abstention là, avec les chiffres définitifs, j'ai pas contre-vérifié. C'est donc dire que la crise de la démocratie représentative demeure aussi forte qu'auparavant et en fait elle s'approfondit. Donc ça permet de remettre des choses en perspective, notamment les résultats spectaculaires du maire. Disons que ramener à l'ensemble des électeurs, ça y fait 38% d'appui et non pas 79%. Il n'empêche que 38% d'appui, ça fait une éternité qu'il n'y a pas eu un maire de Québec qui a eu ça, soyons quand même francs à ce sujet-là. Et il n'empêche aussi que ça fait vraiment très longtemps qu'il n'y a pas eu un regain d'intérêt, un regain de participation lors des fusions municipales, parce que le monde était en beau joie le vert, puis il y avait vraiment un clash entre deux écoles, et c'était l'allié qui avait gagné à ce niveau-là, ça avait remonté, mais sinon, ça fait vraiment longtemps là, que c'est très très bas, là, les taux de participation, et... on n'est pas revenu au plancher historique, là, mais on n'est pas loin. Là, là,
selon Mario Dumont, on est un modèle à Québec parce qu'on a eu moins d'abstentionnisme qu'à Montréal.
Oui, on a eu moins d'abstentionnisme. C'est pas juste ça, même. OK, à Montréal, là, il y a un taux de participation de quoi? 35%?
Oui, mais c'est la moyenne pour eux.
Oui, mais tu veux-tu savoir la plus drôle?
Vas-y.
En nombre de votes absolus, Régis a eu plus de votes que Gérald.
Ben, qu'un.
Il y a plus d'électeurs qui ont voté pour Régis Labeaume que pour Gérald Tremblay, même si il y a trois fois plus d'électeurs à Montréal qu'à Québec.
Ben,
en fait, 25 000 de plus, je pense.
C'est Tremblay, quand même spécial, ça. Tremblay, c'est un ancien libéral.
Ouais.
Le monde est, en fait, les gens ont l'air d'avoir été blasés à Montréal. T'avais le choix d'être un libéral, un péquiste ou un gars sorti pas de nulle part, mais ouais, pas loin.
Urbaniste, puis, ouais. Un urbaniste qui a été très, très, très décrié par les médias et que...
Oui, il n'y avait pas bonne presse.
Non, vraiment pas bonne presse. Non, effectivement. D'ailleurs, on pourrait faire une blague avec ça. Ça m'est venu à un moment donné en regardant les files d'attente pour les vaccins. Je me disais, ouais, bon, c'est pas pire. On a plusieurs maires, parce qu'il n'y a pas juste Labeaume hein, qui a eu 79%, pas juste de lui, là, mais Tremblay à Saguenay, il y a eu aussi à peu près ça, 80%.
Oui, ben, Lévis, aucune opposition. Ouais, c'est
ça. Fait que là, on se dit, écoute, de ce côté-ci de la 20, on a des maires qui reçoivent 79-80%, ou même qui sont élus par acclamation, effectivement. Amélie Rinaldi, elle a été élue par acclamation. Ils font des balayages.
Il y a une couple de membres de son exécutif aussi, je pense, qui
étaient. Ben, c'est à peu près la moitié des maires qui ont été élus par acclamation au Québec.
Oui, il y a même deux ou trois municipalités, puis pas de maires.
Huit. Huit, pas de maire.
Wow.
Et t'as ça. D'un autre côté, ben, t'as à Montréal, malgré la mafia, malgré la corruption et tout.
Ils ont essayé.
L'équipe est reportée au pouvoir. Ce qui faisait dire quand même aux chroniqueurs politiques du Devoir que pour certains, il semblait que mieux valait la mafia qu'une souverainiste. pour certains électeurs. Il était vraiment fâché, M. David. Et donc, voilà. Puis en plus, ben là, c'est ça, t'as les files d'attente pas possibles. On n'est pas capable d'administrer un vaccin sans créer des files d'attente monstres. Et après ça, on nous dit que, heureusement, le communisme est terminé.
Yeah.
Et nous avons gagné. Donc, voilà pour ça. Sinon, sur les élections municipales, autre chose qu'il faut souligner, c'est la fin d'une époque. Effectivement, le renouveau municipal de Québec a subi un balayage complet aux mains de l'équipe Labeaume. C'est la défaite la plus cuisante de l'histoire de ce parti-là. Et enfin, ça marque la fin d'une époque politique qui avait été ouverte à Québec en 1977. Parce qu'avant le renouveau municipal, il y a eu le Rassemblement populaire et avant ça, il y a eu des groupes qui ont travaillé jusqu'à finir le Rassemblement populaire. Et bien que fondé en 2000, donc le RMQ était l'héritier du Rassemblement populaire de Québec qui avait été officiellement fondé en 1977, premier élu en 1981 dans Saint-Jean-Baptiste-Montcalm. Alors, ce parti-là était issu d'une opposition populaire à la rénovation urbaine qui s'était développée dans les années 70 et qui avait abouti à la création d'un véhicule électoral. Faut savoir qu'au point de départ, le Rassemblement populaire voulait défendre les droits et les intérêts des travailleurs et des salariés dans une perspective de gestion socialiste de la ville. Ça a un peu changé en chemin.
Oui, c'est passé où tout ça? Ils l'ont coupé puis, un peu, je pense,
ouais,
dilué
ouais,
à chaque
ouais,
élection.
Je suis en train de faire une recherche de fond là-dessus parce que le destin du renouveau municipal de Québec en 30 ans, là, c'est un condensé de tout ce que ça fait l'électoralisme. En fait, c'est un condensé. Je veux dire, c'est le même chemin que la social-démocratie, mais en trois fois le temps, en trois fois plus rapide. Donc, ça va vraiment vite. Et même,
travaillait dur.
Oui, mais ces deux premiers mandats sous l'Allier, il y avait encore une politique social-démocrate, il réussissait encore à faire des choses. Puis le troisième mandat, oublie ça. Puis dans l'opposition, c'était rendu un truc. On est passé d'un véhicule électoral pour ceux et celles qui voulaient radicalement changer la ville à un lieu de pouvoir électoraliste et opportuniste à une coquille vide qui vient d'être balayée. Donc, comme disait justement l'ancien maire l'Allier qui a été le chef historique de cette affaire-là, il n'y a pas d'avenir dans le passé. Et donc, le RMQ risque de jamais s'en relever, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Soit dit en passant, moi, j'ai adoré, détesté Jean-Paul Lallier et Claude Larose et tout ça. Puis c'est pour ça que je suis toujours mal à l'aise avec les labomophobes, là, dans la mesure où, pour moi, c'est sûr qu'il est plus populiste, il est plus crasse, mais je reconnais beaucoup, beaucoup, beaucoup le RMQ dans l'équipe Labeaume. Mais ça, c'est peut-être moi qui est fou et qui est un peu trop radical, un peu trop vieux. Autre chose aussi, qui est fin d'une époque, à ce niveau-là, mais fin d'une époque à un autre niveau aussi, puis ça, c'est peut-être plutôt à mettre du côté des actifs de l'élection, c'est la fin des fusions. Parce que on se retrouve avec la même couleur politique au centre-ville comme en banlieue. Il n'y a plus de cassure à ce niveau-là. Le centre-ville a été bouffé, mais par du monde qui, il y a 10 ans, se serait présenté pour le RMQ, pour le Rassemblement populaire. Parce que là, tu sais, la femme qui a été élue dans le district des Faubourgs, c'est une artiste de renommée internationale. Là. C'est le profil type d'une candidate de la Ligue.
En entrevue, elle parle qu'il faut embellir la ville.
Son
programme, elle, c'est d'embellir Perron, la ville.
Qui se présentait dans Montcalm, qui a été battue, une des rares qui a été battue, est attachée politique de Boisclair et de Bernard Landry, puis elle a travaillé pour l'évêque. La jeune femme qui a été élue dans Geneviève, je me souviens plus de son nom, je pense que c'est Amelin dans Saint-Sauveur, c'est une femme du conseil de quartier qui avait été au comité de citoyens. T'sais, c'est pas des...
Oui, mais oui, t'aurais pu mettre un...
C'est du monde qui aurait pu être pour l'Assemblée en peuplant.
T'aurais pu mettre un cochon écrit équipe la bombe, ouais. Il aurait été élu.
Ils ont été élus, mais c'est ça. Bref, je pense que c'est dans la foulée du 400e, ils ont vraiment réussi à faire avaler les fusions complètement.
Oui, puis un mandat de 2 ans, c'est tellement expéditif, surtout pour un drogué comme la bombe, mais c'est un gars c'est speed que le monde n'a pas eu le temps de se blaser.
Mais il y a une bonne chose. C'est que quand c'était le RMQ qui était présent au centre-ville puis tout, puis dans les quartiers centraux, ouais, ça faisait une voix politique pour les gens, une forme de résistance au dictat de la banlieue. Sauf que à chaque fois que les gens parlaient puis les gens étaient frus, ben c'était facile de voir juste l'ennemi politique. Alors que là, là les clashs vont se faire sur d'autres bases que sur une base d'accord ou pas d'accord politiquement. Donc, ça va être intéressant à vérifier. Ceci dit, l'opposition, parce qu'opposition, il y a quand même 2 conseillers indépendants qui ont été élus. Le mot d'ordre de l'opposition dans la rue va devoir devenir plus qu'un slogan, parce que c'est clair, net et précis que quand on a un conseil de ville qui penche tout du même bord de même, ben ça ouvre la porte assez radicalement, en fait, à toutes les dérives. Puis, à un mode de gestion autoritaire, et on le sait, le maire, il est fort là-dessus. Donc, faudra suivre ça. Il n'y a rien quand même qui est coulé dans le béton. C'est à nous de renforcer les groupes populaires, voire d'en créer là où il n'y en a pas, les comités de citoyens et tout. Puis d'essayer de redéployer une autre politique dans les quartiers. Une alternative libertaire qui est en lien, en fait, avec les luttes urbaines. Ça va être une période politique intéressante, là, dans la mesure où il y a vraiment des choses qui ont changé. Puis qui va falloir voir quel parti on peut en tirer de tout ça. Parce que, bon, après ça, ça reste toute une gang de pourris qui veulent diriger dans une direction.
Oui, mais au final, ça revient. Ça tourne en rond.
Tu sais, le maire, tu t'es présenté pour devenir chef du RMQ, il n'a pas réussi.
Mais là-dessus, Loubier, il dit: ah ouais, mais sa victoire écrasante, là, il y a une petite odeur de vengeance.
Ben oui, c'est clair qu'il y a une odeur de vengeance. C'est clair qu'il a mis le paquet pour défoncer la RMQ. Il a réussi.
Il serait gêné encore.
Il a réussi. Ouais. Donc, voilà. Une autre chose à dire sur... sur l'enquête publique. À dire sur les élections municipales. Alors, on a entendu beaucoup dans les dernières semaines toutes des demandes d'enquête publique. Ça a commencé avec l'industrie de la construction, puis après ça, ça s'est déplacé à la corruption municipale, la mafia, les problèmes d'enveloppe brune qui circulent.
Les
ristournes sur les contrats, financement des partis politiques, puis tout. Puis, vendredi dernier, la FTQ est sortie en disant... En fait, c'était pas mal les seuls avec les libéraux à pas vouloir une enquête publique, à dire qu'on veut une enquête policière et tout. En tout, c'est la FTQ Construction qui était sortie pour dire ça. Moi, en tout cas, je pense que M. Arsenault, le président de la FTQ, va être face à un beau problème.
On va le déchirer en deux.
Ben oui, parce que il y a le Syndicat canadien de la fonction publique, qui est le plus gros syndicat de la FTQ. Fait que FTQ Construction, Syndicat canadien de la fonction publique, c'est à peu près de la même grosseur, là. Je pense que le SCFP est un petit peu plus gros, c'est 100 000 membres. Mais le SCFP, tu sais, ils sont fait varloper pas mal des dernières années, parce que c'est eux qui représentent l'école bleue. Donc, notamment l'école bleue de Montréal, c'est eux qui représentent souvent les syndicats de fonctionnaires municipaux. Ils ont 25 000 membres des syndicats de fonctionnaires municipaux. C'est eux qui représentent les groupes de transport en commun, c'est eux qui sont à Hydro-Québec, différentes affaires, mais ils sont vraiment présents dans les municipalités. L'immense majorité des syndicats au municipal sont membres du syndicat canadien de la fonction publique. Et ce syndicat-là est sorti au lendemain des élections municipales en demandant une enquête publique sur le monde municipal. T'as le nouveau président le nouveau directeur québécois du syndicat qui dit que il exige du gouvernement Charest un virage radical afin d'assainir les règles entourant les affaires municipales, notamment les appels d'offres et le financement des partis. Alors, ils disent qu'il est indispensable de redonner à la fonction publique et parapublique municipale le rôle qui lui revient. Il est clair que les changements, que tous les changements qui sont proposés jusqu'à date, c'est pas quelque chose qui va bien marcher. Et en fait, les moyens annoncés jusqu'à présent sont inadéquats et ne servent qu'à faire diversion pour que les véritables responsables ne soient pas identifiés, puis pour éviter la tenue d'une enquête publique sur le monde municipal. Là, le CFP est pas d'accord avec ça et ils disent que les municipalités sont parmi les plus grands fournisseurs de contrats de toutes sortes au Québec et que partant de là, ce serait la moindre des choses de veiller à ce que les octrois ne permettent pas de retour d'ascenseur et de cadeaux aux petits amis. Au cours des dernières semaines, on a constaté que les services publics nous garantissent un juste prix, la transparence dans la reddition de comptes. Il faudrait donc désormais que les contrats accordés à des firmes externes, car il va y en avoir, soient eux aussi au-dessus de tout soupçon. Puis ils veulent aussi qu'il y ait un ménage qui soit fait dans le financement des partis. Oui. Au niveau municipal. Donc, ça va être vraiment beau tout à l'heure parce que là, t'as plein de syndicats qui demandent. Je sais pas là, combien de temps Arsenault il va tenir le coup. Là.
Moi, je pense que ça va. Le moindre mal pour l'instant, du moins, ça va être changement de position qui va dire ben, nous, on n'a pas d'opinion. Faites ce que vous voulez.
Ouais, ben, on n'est pas plus au nom de la FTQ dire qu'il veut pas l'enquête publique.
Non. Mais là-dessus, tu sais, il est sorti des chiffres 40% pusheur au Québec, ailleurs, puis tout ça, c'est des contrats octroyés au privé par le public. Pourtant, le discours qu'on se fait toujours dire pour privatiser, c'est que ça va être moins cher.
Et plus efficace.
Et plus efficace. Mais pourquoi on n'a jamais eu le comparatif?
Ben, c'est moins cher et plus efficace quand tu fais affaire avec du monde clean.
Mais encore là, non? Tu rajoutes un intermédiaire et c'est
non,
tout.
Non, c'est sûr que c'est des problèmes. D'ailleurs, juste pour dire, pour enfoncer le clou sur la FTQ, hein, je vais passer tout de suite au provincial. Il y a ruefrontenac.com. Je ne sais pas si vous connaissez le site web. C'est le site de l'AKT du Journal de Montréal qui a sorti hier une belle photo. Une superbe photo, évidemment, de ta radio, je peux pas vous la montrer. Sauf que c'est un cliché qui est une illustration parfaite de ce qui marche pas au Québec. Puis, en fait, c'est une photo qui a été prise dans l'édition du 20 novembre 2008 d'un hebdomadaire anglophone montréalais, le Suburban, qui est... Ça, c'est en pleine campagne électorale. En fait, c'est une espèce de Québec hebdo, mais à Montréal, en anglais, pour les Anglos de l'Ouest de l'île. Et là, c'est une photo d'un groupe, en fait, de gens qui posait en pleine campagne électorale dans un événement de financement, en fait, dans une activité de financement d'un parti. Alors, qui qu'on avait? On avait à droite Tony Tomassi, qui est l'actuel ministre de la Famille libérale, qui tenait Lisa Accurso par la taille. Ça, c'est la fille de Tony Accurso. Madame Accurso, c'est la principale dirigeante de la compagnie Louisbourg Construction, qui appartient à Tony Accurso. Au centre, on a Monique Jérôme Forget,
qui était président du Mexique?
Non, mais ça, c'est en 2008. Ah, c'est pendant la campagne électorale. On a Monique Jérôme Forget, qui est président du Conseil du Trésor, ministre des Finances. Et on a l'avocat Martin Cossette, candidat malheureux du Parti libéral dans la circonscription d'Antique. Et à l'extrême gauche, on a Sandra et Edward Brandon. Edward Brandon, qui était alors le secrétaire trésorier de la FTQ Construction.
Ouais. Je vois pas pourquoi ils veulent pas d'enquête.
Mais moi, je sais pas, là, mais être un ouvrier. Là, j'imagine qu'il n'y a pas énormément d'ouvriers de la construction qui lisent de Suburban dans les banlieues anglophones de l'ouest de la ville, il y en a peut-être. Mais moi, là, voir un de mes dirigeants syndicaux dans la même activité de financement qu'un boss avec des ministres, je suis pas sûr que je le prendrais bien.
Ils ne savent pas, les gens. Je veux dire, les gens, ils sont comme toi, la photo est sortie dans un petit journal de l'ouest de l'île. 95 ou 98% de la population québécoise l'a pas vu.
Ben non, c'est sûr.
Puis les autres, ils ont même pas porté attention.
Puis le gars, il est plus secrétaire trésorier, ceci dit, il y a eu des changements depuis. Mais moi, en tout cas, j'ai été ému devant une si belle collaboration de classe. Je trouve que c'est un hommage libéral au modèle québécois de concertation.
Puis aussi, il faut pas s'étonner de voir des représentants de la CS, de la FTQ avec des grands monnayeurs, au fond, parce que la mentalité...
Mais ils défendent l'intérêt.
Ouais, c'est ça, la mentalité de la FTQ, c'est on travaille en collaboration avec ceux qui nous donnent l'emploi.
Oui, c'est ça. Ils défendent les intérêts des travailleurs en s'assisant avec les boss. Mais en fait, ils s'assurent de continuer à avoir de la job. Mais bon, bref, c'est une illustration parfaite du syndicaliste d'affaires. Et tant qu'à moi, ça montre qu'il y a quelque chose de pourri au Québec. puis c'est ça. T'sais, bon, on va s'attarder sur la FTQ. On en a parlé. Sauf que eux autres, c'est un détail. Là, je veux dire, comme Michel Arsenault disait, là, c'est pas la FTQ qui blanchit de l'argent. Ses patrons. Mais justement, en parlant de ça, le gars Yves Chartrand de ruefrontenac.com, qui est un journaliste en local du journal de Montréal, il a décidé, lui, qu'il allait s'abuser un petit peu dans les états financiers du Parti libéral du Québec. Puis là, il a trouvé des affaires vraiment, vraiment cool qui expliquent un petit peu pourquoi, en fait, les libéraux, ils sont pas particulièrement pressés d'avoir une enquête publique. Parce que quand on regarde leurs affaires, c'est tout légal, là, mais ça va faire des la mèche si jamais ça devient public. Tu sais, t'as cette photo-là qui ressort. Lui ressort cette photo-là juste pour montrer. Sauf qu'en fait, il veut souligner en fait qu'il y a des liens étroits avec les libéraux. Et ce qui est important, c'est ce qui n'est pas pris en photo. Puis là, il nous ramène des affaires. Tu sais, vous vous souvenez, on a dit là-bas, mais il ramasse 50 000 piastres dans un cocktail. On trouvait ça assez effrayant. Comment que c'était. C'est beaucoup d'argent, tu sais. Sauf que là, on dit le 21 avril 2008, Jean Charest s'est présenté dans un cocktail privé de financement. Dans une résidence de Terrebonne, cocktail qui était organisé par un dirigeant de la compagnie Écolosol, qui est une compagnie dont Tony Accurso est un des propriétaires. L'activité a rapporté 107 500 $ au Parti libéral du Québec, avec des billets vendus à 1000 piastres l'unité. Mais là, on parle d'une activité dans une maison de banlieue, là.
Oui, il y avait 100 personnes, même plus. 107 personnes, même.
Ben non, peut-être 100 personnes qui ont vendu.
Ouais, c'est ça.
Mais Chris.
T'imagines 100 personnes dans un bungalow.
Non, mais tu sais, avec une grosse piscine en arrière. dans ce même mois-là, au mois d'avril, il y a d'autres activités du même type qui ont rapporté beaucoup d'argent à la caisse électorale du Parti libéral. Le 3 avril, il y a un cocktail à Anjou qui a ramassé 233 650 $.
Pour Rodriguez.
Un cocktail, esti. Un souper à Laval le 14 avril qui a permis de ramasser 196 400 $.
Ouais.
Et ça, c'est des affaires qui sont dans les rapports libéraux qui sont remis au directeur général des élections. Des trucs publics. Alors, c'est hautement symbolique. Puis, on va juste nous souligner, tu sais, Lisa Curceau, dont on parlait tantôt, là, qui se faisait tenir par la taille par Tony Tomassi, le ministre de la Famille. Alors, c'est une des principales dirigeantes de la compagnie Louis Bourg Construction, une entreprise qui est souvent mentionnée dans les derniers mois. Et la semaine dernière, le Parti québécois a fait une compilation des contrats que cette compagnie-là a eu au ministère des Transports. Il est arrivé à la somme de 33 millions de dollars de contrats depuis janvier 2004. Et la madame dirigeait jusqu'en 2007 Iprescon, une autre compagnie de construction. L'autre entreprise importante de M. Curceau, Simard-Baudry Construction, a reçu plus de 120 millions de contrats du ministère du Transport pour la même période. 120 millions de contrats. Et là, on souligne que le relevé ne tient pas compte d'une participation de Louis Bourg et de Simard-Baudry à des contrats obtenus par des consortiums. Fait que quand ils se mettent avec d'autres compagnies, ça compte. En plus, ils ont eu des contrats en collaboration avec d'autres. Donc, on comprend que le journaliste finit en disant « On le comprendra, une enquête publique pourrait causer des torts considérables au Parti libéral du Québec sur le plan de la perception publique. » Parce que c'est peut-être pas illégal, il y a peut-être pas de malversation, il y a peut-être pas de corruption, mais disons que ça regarde mal. Maintenant que les élections municipales sont chose du passé, que la pression devrait diminuer parce que le maire Tremblay non plus n'en veut pas d'enquête, le gouvernement de Jean Charest espère que la grogne, la volonté populaire va s'effriter tranquillement pour passer à d'autres préoccupations.
J'espère que les médias
dont la vaccination contre la grippe a H1N1.
Les médias vont trouver d'autres choses, bordel.
Oui, mais c'est complètement hallucinant, toi. Hey, on est en 2009 au Québec et c'est tout un système, en fait. La seule manière de s'en tirer, ce serait de tout balayer tout ça et de tout faire disparaître tout ça. Je vais prendre les deux minutes qui restent avant qu'on passe à d'autres choses pour dire rapidement, donc vous pouvez en savoir plus en venant visiter notre blog Voix de fait avec un x et un s.blogspot.com et je voulais juste revenir sur quelque chose où, à l'international, on a des camarades d'une fédération anarchiste au Brésil, dans l'état du Rio Grande do Sul, ils sont basés à Porto Alegre, la ville qui est reconnue mondialement pour le forum social. Porto Alegre qui est passé aux mains d'un gouvernement un peu plus conservateur. Et donc, il y a eu un commando au service du gouverneur Yed Akrisus qui a fait éruption locale de la Fédération anarchiste Gaucha le jeudi 29 octobre. Ils ont saisi du matériel divers, des affiches, des procès-verbaux de réunion, un ordinateur, les poubelles du local, et ils ont aussi ramassé sur le serveur les coordonnées en fait de tous les gens qui appuient l'organisation. Puis il y a eu deux personnes qui ont été arrêtées, inculpées. Et en fait, c'est suite à une campagne d'agitation de la Fédération anarchiste Gaucha qui dénonce la corruption du gouvernement et les malversations politiques que tout ça a eu lieu. Évidemment, ce qui dérange, c'est que la fédération en question a une base sociale. Ils font un travail avec des chiffonniers, des cartonniers, avec des sans-toits, des sans-terres et tout et tout. Donc, il y a un appel à la solidarité. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter le portail Anarchismo ou aller sur notre site web. On va mettre incessamment une déclaration internationale qui a été lancée par la CGT espagnole et qui est appuyée par une quinzaine d'organisations communistes libertaires. C'est ce qui met fin à cette édition de Voix de Fils. C'était Nicolas avec
Jenny
et Farouko
sur les ondes 88.3 à Québec. Passez une agréable semaine.
Je passe une des ballons, tu me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. Tu prends le micro, surtout ne change pas le programme. Tu respectes pas l'homme et tu ne respectes pas la femme. Tu rentres pas dans la cité de peur de te faire guébra. Chez toi y'a pas de monde et chez toi y'a pas Scarl. Tu peux pas ressentir ce que ressent un jeune chez moi. Parle de ce que tu veux mais pas de ce que tu connais pas.